le journal Sylvain Youngman.
Bonjour à tous et bienvenue au 13h de ce vendredi 23 août 2024 sur la CIR TV, les titres. Les pluies de la terreur engloutissent le Mayo Danaï à l'extrême nord. Déjà 3 morts et de nombreux dégâts matériels. Les hippopotames sont en déroute. Les pieds dans l'eau, le 13h constate, évalue et tire la sonnette d'alarme. Rentrée scolaire 2024, des écoles sous la menace des eaux, de la baisse des niveaux, de la consommation de la drogue et du sexe. Les pédagogues souhaitent que ces mauvaises leçons soient effacées des tableaux. Dans les pages culture, les 69 notes de la vie de Toto Guillaume à Douala et la prestation d'une étoile demain à Yaoundé grâce d'Eka. Le Makossa, genre musical et pas de danse, en bonne place dans le 13h. Madame, monsieur, bienvenue aux nouvelles. Merci de nous renouveler votre confiance tous les jours. Vous écoutez la CIR TV, vous écoutez le 13h. Inondation dans le Mayo Danaï, des suites des pluies diluviennes, déjà 3 décès recensés dans les arrondissements de Vélé et de Kalfou. Un enfant de 2 ans et un trentenaire et un homme du 3e âge. À Guéré, les hippopotames squattent les champs envahis par les eaux. Les dégâts matériels sont importants et les municipalités s'activent pour encadrer les sinistrés. La cartographie des pluies qui fâchent, c'est avec Honoré Mouaké de CIR TV Extrême Nord.
2 décès déjà enregistrés dans l'arrondissement de Kalfou. À ces pertes en vie humaine s'ajoutent des dommages en biens matériels. Jean-Emmanuel Gogobélé est le maire de cette commune.
2 pertes, un homme d'une trentaine d'années pris par la furie des eaux et un enfant de 2 ans où la maison s'est écroulée. Les populations ont été surprises dans beaucoup de villages pour Malsambo, la ville de Kalfou même, le quartier Kessouo.
En dehors de l'unique décès notifié dans le village d'Agola, arrondissement de Vélé, certaines parcelles de riz sont envahies par les eaux. Et c'est pas tout. André Djafsia, maire de la commune de Guémé.
Les cultures sont détruites, les routes sont détruites, il n'y a pas de latrines. Ce n'est que les pluies en attendant l'arrivée des eaux du Logot.
À Guéré, les pluies diluviennes ont également laissé des traces. En plus des dégâts matériels occasionnés, les sinistrés font face à la menace des pachydermes. Alphonse Vildina est le maire de la commune de Guéré.
Plus il y a envahissement d'eau, les hippopotames viennent rester en bordure. Les champs qui sont au bord du lac constituent maintenant la nourriture de ces hippopotames. Et comme nous avons une très forte population de ces hippopotames, on ne parle plus des champs.
Les municipalités de la vallée du Logone sont à pied d'œuvre. L'assistance des sinistrés fait désormais figure de priorité. Yagua, Honoré Mouaké, CIR TV.
Face aux conséquences occasionnées par ces fortes pluies dans le Mayo Danaï, les municipalités de la vallée du Logone s'organisent. Plusieurs mesures sont prises pour atténuer les dégâts et éviter autant que possible des risques. C'est le cas de la commune de Gobo au niveau du bec de Canard. Écoutons à ce sujet le maire Roubutangou Nangina. Il est au micro d'Honoré Mouaké.
Au niveau de la commune, nous avons eu l'idée de fabriquer une pirogue à moteur de 23 mètres. Elle est très importante là pour faire face à ces dégâts, même évacuer toute la population dans un village donné. Nous pensons d'ici 2 semaines mettre ça à l'eau pour permettre que s'il y a une catastrophe, qu'on soit à mesure de riposter face au phénomène. Malgré que ce soit seulement les eaux de pluie, nous avons la quasi-totalité des circonscriptions du canton de Bougoudoum qui est envahie par les eaux. Tout l'ensemble qui s'approche de ce fleuve dans le canton Moussé, le Grand Djelmé, le Grand Polgué, les Guimri et bien d'autres villages sont déjà touchés par ce phénomène.
Dans le département du Logone et Chari, les élites sont à pied d'œuvre pour limiter autant que possible les dégâts. C'est le cas du sénateur Mahamat Abdoul Karim qui vient de mettre à disposition des populations 1000 sacs vides qui serviront à renforcer la digue du fleuve Logone qui présente quelques signes de vieillesse. D'autres précisions avec Aladi Mustapha à Kousséri. La digue du fleuve Logan a subi les effets de l'érosion et certains quartiers de Kousséri, chef-lieu du département du Logan et Chari, sont menacés. Madouandi Akassou, chef de quartier Laka.
Le digue de Laka est vraiment foutu. Ça commence depuis au niveau de Boucar François jusqu'au niveau de Pont. Vraiment, le digue là, risque de nous menacer cette année-là. Maintenant, l'eau de pluie là, va verser sur nous, nous serons en danger. Ça, c'est notre souci. Il faut du renforcement de cette digue-là.
Mahamat Abdulkarim, sénateur RDPC du Logan et Chari.
En saison de crue, nous avons des inondations. Et surtout à Kousséri, par exemple, on a une digue qui date de plus de 20 ans et elle mérite un entretien. Il faut que l'élite elle-même se bat.
En attendant une réaction musclée des autorités compétentes, l'élite du Logan et Chari se mobilise. C'est le cas du sénateur Mahamat Abdulkarim qui met à la disposition des autorités 1000 sacs vides pour renforcer la digue.
Au besoin de même d'autres villages hors de l'arrondissement de Kousséri, c'est pour tout le Logan et Chari.
Le membre de la Chambre haute du Parlement répond ainsi à l'appel lancé par le préfet du Logan et Chari, Mathias Fombele Tayem, au cours d'une réunion qui invite les populations et les élites à accompagner le gouvernement dans la lutte contre les inondations dans ce département.
Ce phénomène des pluies diluviennes préoccupe au plus haut niveau l'ensemble des autorités. Pour l'Observatoire national sur les changements climatiques, de fortes précipitations à venir sont signalées dans la zone soudano-sahélienne, donc l'extrême nord. Eliane Matingoum.
La situation qui prévaut à Yagoua ces derniers jours vient confirmer les prévisions du bulletin saisonnier des paramètres climatiques de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Le bulletin annonce aussi une continuité de la saison des pluies dans plusieurs localités de l'extrême nord, au rang desquelles Yagoua, Kaélé, Dumuru, Logan Birni, Kousséri, Kaikai et Blangoua. Docteur Ramsès René Meillon, climatologue.
Des jours de très fortes précipitations encore dans cette partie du pays. Ajoutez à cela la saturation des sols en eau sur la base des quantités de précipitations enregistrées depuis le début de la saison prédispose davantage cette partie du pays a encore plus de situations d'inondations durant les prochaines semaines.
L'ONAC mentionne également l'hypothèse de destruction de maisons d'habitation, des édifices publics, l'augmentation des maladies respiratoires dans les cheptels et une prolifération des cas de maladies gastro-intestinales. Les climatologues préconisent aux populations quelques mesures de prévention.
De rester très attentive aux recommandations et au conseil des acteurs intervenant dans l'humanitaire, tels que la FAO, Action contre la faim, la Croix-Rouge, sur la formulation d'actions anticipatoires.
Ces populations sont appelées à plus de prudence et de respect des mesures éditées par l'ONAC pour limiter les dégâts au cours des prochaines semaines.
Les prévisions météorologiques sont très importantes car elles permettent de donner rapidement des alertes et réduire ainsi les risques de catastrophes. Le Cameroun, progressivement, installe un système d'alerte qui permet ainsi aux administrations et aux populations de se préparer. Depuis quelques années, l'Observatoire national sur les changements climatiques et la Direction nationale de la météorologie produisent des bulletins d'alerte pour des situations prévisibles qui méritent plus d'attention. L'analyse est signée Lynn René Batonguet.
La production des services de prévision météorologique est devenue un rendez-vous au Cameroun. Autant la direction de la météo au ministère des Transports que l'Observatoire national sur les changements climatiques proposent des bulletins quotidiens, des cadres mensuels et trimestriels qui constituent de véritables alertes pour éviter ou tout au moins réduire les risques de catastrophes que sont les inondations, les sécheresses extrêmes, les éboulements et autres glissements de terrain. La production de ces services se fait en direction de la plupart d'administrations, des élus locaux et des populations, tant rurales qu'en zone urbaine. À ce jour, l'ONAC, par exemple, est à près de 200 bulletins d'alerte des CADER, une centaine de bulletins mensuels et trimestriels et une douzaine de calendriers agricoles qui font état de situations prévisibles en amont. Si les choses évoluent progressivement, à l'ONAC comme à la DNM, on pense qu'elles avancent à pas de tortue. Certaines administrations, élus locaux et de nombreuses populations n'ont toujours pas pris l'habitude de prêter une oreille attentive à ces alertes, si bien que les situations de catastrophe surprennent encore, comme ce que vivent les populations de l'extrême nord en ce moment, suite aux inondations enregistrées dans plusieurs localités. À l'ONAC, on déplore l'insuffisance des moyens financiers, notamment pour une communication optimale des différents services météorologiques mis à la disposition du public. Des efforts sont tout de même faits dans l'espoir de toucher chaque jour un peu plus de personnes.
La préservation du bilan carbone du Cameroun est au cœur d'un atelier ouvert ce matin à Bankomo, dans la région du centre. L'étude est réalisée avec le concours de l'Observatoire national sur les changements climatiques, fait l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre du secteur agriculture, foresterie et autres affectations des terres dans les zones agroécologiques soudano-sahéliennes, des hautes savanes guinéennes et des hauts plateaux pour la période allant de 2010 à 2022. 94%, c'est le taux de réussite de la 75e promotion de l'École nationale des eaux et forêts de Mbalmayo dans la région du centre. Après 2 ans de formation, les 343 lauréats ont reçu ce jour leur diplôme de fin de formation. La cérémonie relative était présidée par le secrétaire général du ministère des Forêts et de la Faune, Joseph Nyongwet, en présence des autorités du département du Nyongesso. Vous écoutez la CRTV, vous écoutez le 13h. passées de 10 minutes dans ce studio. TIC, quel rôle doivent jouer les parents? Quel est le rôle que les parents doivent jouer, donc les autorités locales et éducatives et les forces de sécurité de la ville de Dia pour garantir une navigation sécurisée et responsable des élèves sur la toile? C'est la question principale de la réunion de travail entre le ministre des Postes et Télécommunications et la communauté éducative de la localité. Il est question de capitaliser les savoirs acquis par les jeunes qui prennent part depuis le 20 août dernier au camp de vacances TIC à Idéa. Des savoirs qui doivent promouvoir la citoyenneté, comme nous l'explique notre reporter Gilles-Claude Bonetundi en ligne d'Idéa.
Les parents doivent jouer le rôle le plus déterminant dans l'accompagnement des enfants vers une utilisation saine et éclairée des TIC. L'influence qui est la leur va aider à vérifier les contenus consultés par leurs enfants lorsqu'ils sont sur le net. Le ministre des Postes et Télécommunications l'a rappelé au cours de l'échange qui se tient en ce moment à la mairie d'Edea Premier. La réduction de la cybercriminalité passe par l'instauration des discussions régulières sur l'expérience des enfants en ligne et pourquoi pas l'utilisation des logiciels de contrôle parental pour surveiller et limiter leur activité en ligne. Les enseignants, quant à eux, ont également leur rôle à jouer. Ce sont les architectes qui bâtissent les fondations de l'éducation numérique des enfants. Les enseignants peuvent organiser des cours sur la cybersécurité, montrer comment vérifier la crédibilité des informations en ligne ou encourager une utilisation éthique des réseaux sociaux pour que les enfants évitent les pièges sur la toile. Mined Libom Lilikeng rappelle aux autorités administratives et aux maires qu'ils doivent s'impliquer activement dans la promotion d'un environnement numérique sécurisé pour les enfants. Elles peuvent lancer les campagnes de sensibilisation, organiser des forums et des séminaires et encourager les écoles à adopter des pratiques numériques responsables. Des campagnes d'affichage et de publicité sur les bonnes pratiques numériques et la distribution des guides pratiques aux familles et écoles sur l'utilisation sécurisée d'Internet sont d'autres pistes pour que les savoirs acquis par les enfants après les camps de vacances TIC soient profitables à toute la communauté. Aidez à Gilles-Claude Mbongetundi pour le 13h.
Nous restons, merci Gilles, nous restons dans le département de la Sanaga-Maritime pour parler des préparatifs de la rentrée scolaire, cette fois à Mwanko, où des écoles sont sous la menace des eaux. On en parle avec Augustin Guizana, de CRTV Littoral.
Mwanko a les pieds dans l'eau depuis quelques jours. C'est la période des crues de la mer et les premiers dégâts sont enregistrés dans les établissements scolaires de cette partie de la Sanaga-Maritime, dans la région du littoral. Claudine Gisèle Guiladjoué, inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base de Mwanko.
À ce jour, nous notons une école qui est principalement touchée. Il s'agit du Government Bilingual Primary School de Yoyo 1, qui est l'école la plus touchée pour le moment. Nous avons également le GBNS Yoyo 1. c'est un complexe scolaire qui est touché. C'est la seule école qui est touchée pour le moment. Peut-être qu'il y en aura d'autres.
L'arrondissement de Mwanko, ce 20 écoles primaires, 7 écoles maternelles, désormais sous la menace des eaux. Les autorités locales tendent la main au pouvoir public.
Mwanko est une zone insulaire. Nous avons 3 bassins pédagogiques, le bassin du Delta, le bassin de l'Amont et le bassin de l'Océan. Et c'est au niveau du bassin de l'Océan que nous observons très souvent ce phénomène. Si bien qu'à la rentrée, les élèves ont de la peine à reprendre le chemin de l'école au même titre que les autres sur toute l'étendue du territoire national. Donc la rentrée se prépare avec beaucoup de peine dans l'arrondissement de Mwanko.
C'est sous cette météo capricieuse que Mwanko s'apprête à effectuer la rentrée scolaire 2024. Douala, Augustin Guizana, CRTV.
Au moment où la communauté éducative s'apprête à renouer avec le chemin de l'école pour le compte de l'année scolaire 2024-2025, il y a lieu de fustiger certains comportements anti-école. Par exemple, la consommation des drogues et du sexe. Il y a lieu de se réajuster, indiquent les pédagogues. Le docteur Alexandre Thomas Essoba, pédagogue principal de collège.
Nous nous sommes mis dans une logique de simplicisme et où la rigueur et l'exigence d'antan avaient presque disparu. C'est la catastrophe. Je voudrais engager même la responsabilité du nouveau système qu'on appelle l'APC et qui s'intéresse plus à la réflexion, au raisonnement du candidat et moins à la maîtrise des fondamentaux, c'est-à-dire la maîtrise primaire de la langue. Aujourd'hui, c'est une ingénierie de son. Les élèves écrivent les sons. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la permissivité, avec la licence, il y a une consommation à outrance de l'alcool, de la drogue et même du sexe. Moi, j'ai fait un constat. Nous voyons beaucoup de filles en situation de grossesse. Et je pense que ce décor est un peu déplaisant dans un environnement scolaire. Il faut assainir. L'école, c'est la propriété à tous les niveaux, propriété physique, propriété mentale, propriété intellectuelle. Il y a un temps pour sa scolarisation, il y a aussi un temps pour faire des enfants et s'installer dans un ménage.
Allons à présent dans les marchés, dans les marchés espaces commerciaux de la capitale, les librairies. Dans certaines librairies, il y a encore des manuels qui manquent à l'appel. On fait ce constat dans ce reportage de Marie-Claire Messier-Cobena.
La rentrée scolaire approche à grands pas dans les librairies, magasins et autres espaces marchands de la capitale. Les rayons sont bien achalandés en fournitures et autres matériaux nécessaires.
Nous sommes à 90% déjà fournis en manuels scolaires et il manque quelques livres qui arriveront d'ici demain pour clôturer.
Il y a tous les accessoires, tous les autres sont disponibles, c'est seulement les livres qui posent problème actuellement.
Jules et Jordan sont gérants de 2 librairies au marché central de Yaoundé. Tous 2 déplorent le manque d'affluence.
La tendance est un peu timide pour le moment. Nous supposons que c'est la fin du mois qui commence demain qui pourrait donner la possibilité à tous les parents de venir se fournir en manière scolaire.
Il n'y a pas encore quand même l'affluence. Je pense que la semaine prochaine, ça sera mieux.
Malgré les dispositions prises pour répondre à la demande des clients, certains livres sont encore indisponibles.
Il y a beaucoup de livres qui ne sont pas encore disponibles. On est obligé d'aller chez les distributeurs chaque jour pour voir ce qui est déjà arrivé. Là, il y a au moins 3 livres manquants par classe minimum. Du coup, on espère vraiment que d'ici la semaine prochaine, il y aura quand même les classes qui pourront avoir tous leurs manuels. Pour le second cycle, tous les livres sont disponibles. À part les nouvelles œuvres littéraires, je pense, terminale, seconde et première. Là.
Les livres qui ont été changés, c'est de la 6e en 3e chez les anglophones de Fort One à Fontfort. Il y a une légère différence des prix. Certains parents se plaignent par rapport à cela.
En dépit des moyens financiers, tous espèrent que les choses vont s'améliorer avant le début des classes prévues le 9 septembre prochain.
Le directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, ESTIC, informe les candidats intéressés qu'il sera organisé un masterclass sur le concours d'entrée en cycle de licence édition 2024. Ce masterclass se tiendra le mercredi 28 août 2024 de 8h à 14h dans les locaux du campus de l'ESTIC en Guayaquil. Les bénéficiaires devront se munir de leur reçu d'inscription définitive au concours et s'être fait préalablement enregistrer par WhatsApp au numéro 660. 17 74 24 96. Le masterclass en question rassemblera des enseignants et des professionnels de référence dans les diverses filières concernées à l'ESTIC, à savoir le journalisme, la publicité, la communication des organisations, l'information documentaire, l'édition et art graphique. L'enregistrement des candidats se déroulera jusqu'au mardi 27 août 2024 à 12h précises. L'inscription et la participation au masterclass classes se feront gratuitement. Aucune dérogation ne sera faite aux dispositions du présent communiqué. Un communiqué signé du directeur de l'ESTIC, le professeur François-Marc Modom. Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, vient d'être élu à la présidence du Conseil international des radios et télévisions francophones. Cette élection est intervenue en fin de matinée au cours d'une assemblée générale extraordinaire en visioconférence consacrée à l'élection des membres de l'organe d'administration de cette organisation internationale. L'élection de la CRTV à la présidence du CIRTEF intervient dans un contexte de redynamisation de cette organisation. Le choix porté sur la CRTV à travers son directeur général Charles Ndongo consacre la reconnaissance internationale du leadership de la CRTV dans le rayonnement des médias publics dans un contexte de forte concurrence et de transformation numérique du paysage audiovisuel. Le Conseil international des radios et télévisions francophones est une organisation créée en 1978 et qui regroupe une trentaine de médias publics francophones européens, africains et asiatiques. C'est le lieu de rappeler que M. Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, assure par ailleurs la présidence de l'Union radiophonique et télévisuelle internationale URTI dont la dernière assemblée générale s'est tenue à Yaoundé en septembre 2023. Vous écoutez la CRTV, vous écoutez le 13h. Il est 13h passé de 20 minutes dans ce studio. Promotion de l'accès de tous aux soins de santé oculaire. Le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun et l'hôpital Maghrabi d'Obak dans la région du centre, désormais liés par un accord de collaboration. Les responsables des deux institutions, le docteur Moussa Oumarou du Sidimuc et le directeur général de Maghrabi, Henry Ebon Koubé, s'expriment au micro d'Agnès Sylvienne Andjama.
Dans nos communautés nationales, il y a des personnes malades qui n'ont pas les moyens de se soigner. Je dis bien dans la communauté nationale parce que c'est pas parce que le Sidimuc est acteur que c'est exclusivement musulman, non. Et l'hôpital nous aide au regard du caractère professionnel et des renommées internationales du Maghreb. À remplir notre mission de travailler pour l'humanité, nous sommes en pleine campagne avec l'hôpital à qui nous disons merci.
La cécité est un grand problème. Ça cause beaucoup de pauvreté. Nous avons donc décidé de travailler ensemble avec Sidimuc pour que nous puissions atteindre les membres de notre société qui n'ont pas accès aux soins oculaires de qualité. Et donc, dans le cadre de cette convention, nous avons l'intention d'organiser des campagnes de consultation gratuites, voir comment est-ce qu'on peut mutualiser les efforts pour la levée de fonds, pour pouvoir pérenniser cette activité.
Réunion d'évaluation des opérations de la campagne d'intensification des inscriptions sur les listes électorales. Demain samedi à partir de 10h à la permanence du parti de Berthois. Cette réunion sera présidée par le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Lom et Djerem, le sénateur Badel Ndangandinga. Nous l'annoncions en titre 69 notes de ma vie. C'est sous ce thème que la légende du Makossa, Toto Guillaume, a embrasé la scène de la salle des fêtes d'Akwa à Deido hier. L'icône a redéployé son riche répertoire avec un rafraîchissement de certains titres de concert avec la grande chorale d'hommes de Deido et certains de ses centenaires. Toto Guillaume en chanson, un reportage de Frank Jam de CRTV Littoral.
En ouverture du récital des 69 notes de vie de Togi, la prestation des musiciens de cabaret dont la qualité inscrite sur la durée est fortement appréciée. Nagener est fier de son chant, la grande chorale d'hommes de Daido a par la suite dévoilé sa colonne d'harmonie, alliant la tradition à la modernité. Issaka Anatole, président de la chorale.
Toto Guillaume a sollicité qu'on l'accompagne dans le cadre d'un partenariat, parce que par le passé, il a eu à nous accompagner aussi.
L'attente n'a pas été longue. Togi a, dès son entrée, dévoilé des signes et mots pour toucher les sens des spectateurs. En présence de Dinabel, Aladi Touré et Sam Fantoma, l'émotion s'est mariée à l'unisson pour charrier la passion des belles chansons. Dinabel.
Quand je vois une
soirée comme celle-ci, je pense plutôt à notre jeunesse, je pense à Ladji Touré, je pense à Toto Guillaume, je pense à Mehdi Dayaz, je pense à Irène Somo, je pense à Cathy Lobé. Donc ça veut dire que le temps est passé, mais nous sommes encore là.
En 2025, Toto Guillaume écrira certainement sa note de vie de plus. Douala, Franck Jam, CRTV.
Toto Guillaume réapparaît cette fois-ci au milieu de 69 bougies sur une scène scintillante de bonheur musical. Un anniversaire conçu comme les 69 notes de sa vie. C'est dire si la légende n'est jamais en retard d'une idée lumineuse, lui que l'on considère avec raison comme un génie. Voici le commentaire de Serge Pout.
Commentaire, l'admiration que l'on a pour ce virtuose de la musique. Plusieurs arguments justifient qu'on le célèbre encore et toujours. Premièrement, Toto Guillaume a produit, à l'insu de son plein gré, des œuvres qui résistent à l'usure du temps. Sa dernière livraison remonte à 1985, c'était un tube, Elimbi Nangomo. Dans cet opus, il se révéla comme le Ngilanyama, le lion. Cet album vint comme pour servir à la fois les amateurs des rythmes fortement cadencés et les puristes, car bien des années plus tôt, le guitariste-chanteur fit la démonstration de sa capacité à tutoyer les sommets avec l'album Pai Anyambe et l'autre tube Mudenge Mwabedimo. Ces pépites ont poussé la critique à reconnaître en lui le maître du Makossa. Mais pouvait-on imaginer que 39 ans plus tard, Toto Guillaume occupe une bonne place dans la mémoire du cœur des mélomanes? Voilà qui relève de l'exception. L'autre argument de poids à prendre en compte, c'est l'expérience unique de l'équipe nationale du Makossa. Une aventure commencée en 1980 avec des partenaires comme Aladji Touré, Ebeni Donald Wesley et Jules Kamga. La particularité de ce groupe, c'était la multicompétence. Et sur ce terrain, Toto Guillaume et Aladji Touré se montrèrent bourrés de talents d'arrangeur. L'on admet dans le milieu que tout ce que Ngilanyama touche devient de l'or. N'a-t-il pas contribué au succès de bien de stars comme Pendeka, Grace Deka, Douleur, Belka Tobi, pour ne citer que cela? Dernier argument à avancer, la grande culture de cet artiste, son verbe et sa verve enrobent les chansons qu'il compose en leur accordant ce côté éternel qui fait les chefs-d'œuvre. On pourrait s'étonner de ce que l'ancien élève du collège de La Salle, qui rejoignit très vite le Black Steel en 1971, laisse transpirer par ses messages l'image d'un sage, d'un mythe en marche, en un mot, d'un sphinx. Cela, on ne peut pas le taire.
Grace Deka annoncé demain à Yaoundé et à Douala, l'unité du peuple Bassa Mpobati. L'affiche culturelle du week-end est déroulée par Christelle Boudjeka.
Hé, alors, appelle-la. Quelle est-ce que tous les commissariats de Douala, ils ont déjà ton numéro. Un peu importe, t'appelles que ton fils a volé.
Cette professionnelle du rire est sur le flyer de la soirée de l'unité du peuple Bassa Mpobati. Rendez-vous samedi 24 août 2024 dès 19h dans la salle des fêtes de Douala Bonamoussadi, près du marché.
Voilà, le cas d'une mère, parce que tu as le cas d'une mère, donc tu dois mourir là, AVC.
Le bouillon culturel promet l'humour, la musique, une projection documentaire et des danses traditionnelles. Le chant gospel va retentir samedi dès 14h à Yaoundé, Hawaï Concorde. Au pupitre, la psalmiste Favor, les quatre choristes du Youth of Faith, les chanteuses Mama Annie et Sanzi Viani. Ambiance chaude samedi dès 20h à l'espace culturel Jacana, Siza Yaoundé Mfandena, rue Foué. La nuit étoilée accueille Grace Deka. Toujours à Yaoundé et cette fois à l'espace Femous, l'on annonce pour samedi dès 20h la diva Charlotte Dipanda. Bon week-end.
En sport éliminatoire de la CAN 2025, le Cameroun entre en compétition les 7 et 10 septembre prochains contre la Namibie et le Zimbabwe. Les Lions indomptables doivent briller à nouveau pour satisfaire leurs fans et tenir leur rang sur la scène internationale. La préparation de ces deux rencontres fait l'objet d'un conclave au ministère des Sports et de l'Éducation physique autour du professeur Narcisse Mouelle Kombi. Les principaux acteurs, notamment l'Afrika Foot, le staff technique conduit par Marc Brice. Nous avons en ligne Samuel Billon. Bonjour Samuel.
Bonjour Sylvain. Deux exposés viennent d'être consacrés à l'analyse de la situation pour définir le site du match du 7 septembre. D'abord l'exposé du directeur général de l'ONIES, Félix Ewanet, ainsi sur la pluviométrie particulièrement abondante en ce moment à Douala et qui a pour effet la remontée de la nappe phréatique du fait des pics de précipitation et la quasi-saturation des aires de jeu, notamment du complexe sportif de Japoma, qui connaît une faible exposition au soleil, ce qui crée une grande vulnérabilité de la pelouse, pelouse en gazon naturel, et dont le biorhythme dépend de la saison. Le deuxième exposé, celui de l'inspecteur général des services au ministère des Sports et d'Éducation physique, Michel Dissakembarga, exploite les données du rapport météorologique de la délégation régionale des transports du littoral qui annonce le cumul de pluie à Douala. Alors, débat exposé, réplique de la FECA Foot, le représentant de la Fédération Camerounaise de football, professeur Prosper Nkouvondo, parle d'un débat orienté. Il est recommandé à la FECA Foot de se référer à la CAF du fait de ces cas de force majeure qui compromettent le confort du jeu, la beauté du spectacle, la santé des joueurs. Cameroun-Namibie du 7 septembre, rendez-vous donc au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le ministre des Sports et l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelle Kombi, qui préside la concertation encore en cours, engage les protagonistes à la discipline, à l'harmonie et à la concertation permanente pour permettre aux Lions indomptables de rugir avec panache contre la Namibie et le Zimbabwe les 7 et 10 septembre prochains. Ici le ministère des Sports et l'Éducation physique, Samuel Dion, en direct pour le 13h. À vous, le studio.
Merci Samuel. J'accueille dans ce studio Doris Baté Tato Ikwe pour le condensé des nouvelles en langue anglaise. Doris, good afternoon.
Good afternoon. Recent floods in the Mayo Danai division of the far north have claimed the lives of three people. A two-year-old is among the casualties of the unfortunate incident, particularly in the Vele and Kalfu subdivisions. Meanwhile, in Gere, Ipopotemai have taken refuge in the inundated farmlands, leaving the villagers helpless as the animals are destroying their crops. Municipal authorities in the Logone Valley are mobilizing rescue measures to reach out to victims, as well as taking preemptive steps to avert further damage. Over in the Logone and Shari division, Senator Mahamat Abdul Karim has distributed 1,000 empty bags to reinforce the dike on the River Logone, which is deteriorating. Preparations are underway in Bafoussam for the projection of a documentary on the life of the President of the Republic, Head of State Paul Biya. The film on the statesman whose destiny has been described as extraordinary will be projected this afternoon at 2 p.m. at the Tokhet Stadium in the presence of an expected crowd. And in sports, the Minister of Sports and Physical Education has called for concerted action between the different partners in the preparation ahead of two 2025 Africa Cup of Nations qualifiers between the indomitable Lions of Cameroon and Namibia on the 7th of September and against Zimbabwe 3 days after in Kampala, Uganda. Minister Narcisse Mouelle Kombi, who is presiding over the first preparatory meeting ahead of the matches, has also congratulated the staff of the flagship team of Cameroon, led by coach Marc Brice, for braving the odds to produce positive results. And in more sports news, Lekefi Football Club of Yaoundé will at 4 p.m. challenge Tout-Puissant Mazembe for a win at the Stade de Matir in Kinshasa, the Democratic Republic of Congo. Coach Stéphane Zana and his players, who are 2 points behind their host Tout-Puissant Mazembe, must win today's match to be able to qualify for the CAF Women's Champions League for the first time in the club's history. These stories and more coming up à 3 p.m.
À retenir de ce 13h, les pluies de la terreur engloutissent le Mayo Danaï à l'extrême nord. Déjà 3 morts et de nombreux dégâts matériels. Les hippopotames sont en déroute. Madame, monsieur, c'était le 13h. Merci de votre aimable attention.